À l'écoute de ces deux projets présentés, c'est que quand on est Rome, on cumule les pauvretés, toutes les pauvretés décrites ce matin par Médecins du Monde. Dans les projets présentés, il doit y avoir une pluridisciplinarité des équipes, des médiateurs, des travailleurs sociaux, des interprètes, ce qui permet de fortifier la motivation pour la construction des projets, l'accompagnement social et la fabrique des réseaux, du travail en réseau. Ce qui fait consensus, c'est la légitimité à agir, c'est la compétence des acteurs. Et enfin, la problématique Rome, alors je l'ai mis dans ce qui fait consensus, peut-être que ça fera débat, mais je vous en parle. La problématique Rome interroge une société dans sa capacité à construire du lien social et faire preuve d'hospitalité. L'organisation de cette journée offre un terrain de partenariat et de coopération. Donc ça a été présenté comme un point positif. Ensuite, ce qui fait débat, et qui doit continuer à faire débat, c'est le vocabulaire utilisé. Quand on parle des problématiques des personnes concernées et des projets engagés, il faut faire attention au discours normatif et ce qui relève du contrôle social, notamment pour les publics qui nous concernent. Certains opérateurs font le constat que les collectivités qui prennent en compte cette problématique le font insuffisamment. Voilà pour ces deux points-là qui font consensus et débat. Si quelqu'un qui est participé à l'atelier veut compléter, allez-y. Sinon, Réjeanne va présenter les préconisations.
Alors, dans les préconisations, les projets devraient être inventifs selon le territoire, les opportunités immobilières existantes. C'est l'accompagnement social des familles sur du moyen terme, voire du long terme, qui s'avère essentiel. La deuxième préconisation, c'est utiliser les compétences légales et administratives des collectivités pour la mise en œuvre de ces opérations. Par exemple, dans le cadre d'une opération d'intérêt national, ce qui a permis, par exemple, dans le Val-de-Marne, à déclencher le soutien du préfet, et notamment sur les permis de construire. Le troisième point essentiel, construire le projet avec les familles. Le quatrième point, le travail avec les populations qui viennent, mais aussi avec ceux qui sont là. Bien faire partager les motivations du projet avec les populations environnantes. Le cinquième point, fortifier le projet par la mise en œuvre en commun, la mise en commun concernant par exemple les budgets, le montage, monter la coalition, partager l'outillage. Et le sixième point, il faudrait que les opérateurs sociaux se situent dans une dynamique militante.
Merci de les applaudir parce que l'exercice n'est jamais très évident. Donc nous allons passer au deuxième atelier sur l'insertion sociale.
Alors qu'est-ce qui fait consensus dans l'insertion sociale et professionnelle de la population rome? Enfin, le débat est parti peut-être différemment que le plan prévu, parce que nous avions la chance d'avoir les collègues du Secours catholique du Var, et qu'il y avait la présence de Dimitrou qui nous a fait part de son expérience de vie. Et je pense que le public était très attaché aussi à écouter quelque chose de sincère et de vécu. Voilà. Alors que ce qui fait consensus, bien entendu, c'est la grande précarité de la population, que ce soit ici ou là-bas. C'est aussi ce qui fait consensus, un effet ciseau hypocrite de l'État français, qui dit oui à la migration, mais non au travail. Ce qui fait consensus, c'est aussi la frustration sur le manque de droit au travail, et aussi un savoir-faire à exploiter, qu'il va falloir sûrement mettre un peu plus en avant. Ce qui a fait débat, c'est d'entrée, notre collègue Dimitrou nous a dit « Mais pourquoi il n'y a pas de Rome ici, aujourd'hui, à part moi ?» Et c'était une question qui était légitime, mais chaque spécificité de chaque ville et chaque région fait en sorte que, bon, ici c'était peut-être plus compliqué, avec ce qu'on a vécu récemment, de pouvoir demander à des personnes de venir témoigner. Le thème aussi n'était pas que du témoignage, c'était d'essayer d'entrevoir des solutions. Alors, à cette question, donc après, l'autre question, ça a été la temporalité dans leur présence. On sait très bien qu'il y a un temps d'adaptation et que c'est plus ou moins long, et qu'en fonction de ça, c'est une question, voilà, est-ce que le temps joue en faveur ou en défaveur? Dans le contexte, comment dire, un petit peu liberticide du moment, c'est plutôt en leur défaveur. Ce qui fait débat aussi, c'est le désir de la population rome. Est-ce que quitter la misère pour rester ici, quitter ici pour retrouver la misère ou retrouver leur pays, est-ce que on peut arriver à résoudre cette équation, parce qu'elle a l'air individuelle et non pas collective par rapport à ça. Que leur proposer ici, dans ce qui fait débat? Comment accompagner donc plus précisément cette présence? Et voilà, que leur proposer qui soit alternatif au côté légal et qui soit plus près de leur désir en fait. Il y a un savoir-faire, il va falloir qu'on se mette à trouver comment l'exploiter au mieux pour que on puisse trouver des débouchés professionnels. Alors les préconisations, Dimitrou et Monsieur de Fombel, qui était là du Secours catholique, bon, on donnait quelques clés. Et en fait, parmi ces clés, c'était travailler sur la confiance avec eux. Et c'était travailler sur l'expérience ici et là-bas. La crédibilité de notre action vis-à-vis de la population rom fait remonter aussi le fait que quand on connaît plus précisément ce dont on parle, on est plus crédible. C'est aussi valoriser les forces de ces familles. Il y a des savoir-faire et des forces, donc il va falloir qu'on soit en capacité de le faire, et organiser leur projet de vie. C'est valoriser les projets d'insertion expérimentaux. Voilà, ça ça te paraît dans les préconisations. Et puis, comment dire, il y avait une conclusion qui était donnée, c'était leur stabilité serait de pouvoir faire des allers-retours qui ne seraient pas, contingentés par des réglementations, parce que c'est pas un public apatride, il y a des racines, et en même temps il y a des problématiques lourdes à gérer, que ce soit au niveau ethnique qu'au niveau social et politique, et donc c'est pas évident de choisir un côté plutôt qu'un autre. Et puis une utopie, parce qu'on peut-être se payer ce luxe-là, c'est peut-être le seul, c'était si on construisait l'Europe à partir de la problématique Rome. Voilà. Merci.
Donc nous allons passer au troisième atelier sur l'accès à la santé et aux soins.
Voilà. Au niveau de la santé, en ce qui concerne les populations roms, on fait le même constat qu'en ce qui concerne toutes les populations précaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pathologie, de la précarité. Par contre, il n'y a pas de pathologie qui ne soit pas aggravée ou favorisée par la précarité. Au sein de la pratique, au contact des populations roms, on relève des pathologies qui sont directement liées à la précarité, c'est-à-dire les pathologies liées à la promiscuité, puisque la promiscuité augmente la contagiosité, les pathologies liées au manque de sanitation, les pathologies liées aux carences alimentaires, les pathologies liées directement aux mauvaises conditions d'habitat et d'environnement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on relève également une surreprésentation des pathologies qui sont liées aux difficultés d'accès aux soins et aux défauts de suivi. On peut parler là de l'insuffisance de la couverture vaccinale et de la difficulté effectivement de mener en bien les campagnes vaccinales dans un contexte d'expulsion répétée avec à chaque fois la perte des documents qui s'y rapportent. La difficulté de suivre les grossesses et de dépister encore une fois des problèmes, de dépister, de les soigner d'ailleurs, et tout le suivi aussi et le traitement des pathologies chroniques ou des pathologies aiguës, puisque ce sont des patients qu'on a du mal à repérer et surtout qu'on a du mal à suivre même une fois qu'on les a repérés. Donc on peut noter quand même que dans ce contexte d'expulsion répétée que ces populations ont suivi au cours des derniers mois, conduit à une mise en danger sanitaire réelle de cette population. Voilà. Ce qui fait débat au niveau santé, je ne pense pas qu'il y ait vraiment grand-chose qui fasse débat. Par contre, il y a un problème qui est beaucoup revenu. C'est le manque de formation des différents acteurs à propos de l'accès aux droits communs. C'est-à-dire que tant dans le champ sanitaire que dans le champ de la santé que dans le champ social, il y a beaucoup d'acteurs qui relèvent qui manquent de formation, d'information et de formation sur, par exemple, les conditions d'attribution à l'AME. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui mérite d'être souligné et travaillé. Au niveau des préconisations, donc, apparaît bien sûr la nécessité de travailler en lien et en réseau. Ce qui est intéressant, c'est que cette nécessité, elle est soulignée autant par les acteurs institutionnels, c'est-à-dire les acteurs hospitaliers, les acteurs des PMI, que par les acteurs associatifs. Il y a également la nécessité de continuer à privilégier le mode du aller vers ces populations, en se déplaçant là où elles se trouvent, tant dans le champ social que dans le temps de la santé. De toute façon, c'est des champs qui sont liés. Et la nécessité pour les institutions de s'adapter aux conditions de vie, aux besoins spécifiques de ces populations, en sortant déjà des représentations négatives qu'on en a souvent, en apprenant à prendre en compte le contexte socio-économique de ces patients, et au niveau des structures, en acceptant aussi de se montrer plus souple, de flexibiliser les horaires, les conditions de réception des publics. Voilà.
Donc nous allons passer au dernier atelier concernant la scolarité.
Alors sur cet atelier scolarité, on a fait le choix de l'animer avec Bernard Bois du CASNAV. Le CASNAV, c'est le Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des Enfants du Voyage, où on a décliné les missions de ce centre. Et nous avons partagé l'expérience aussi d'un accompagnement des enfants vers une meilleure scolarité avec une éducatrice de l'aide sociale à l'enfance, Béatrice Guimard, et Jean-Pierre Fabry, un éducateur de l'ADAP 13. Là, ont été soulevées de nombreuses questions. Ce qui fait consensus, c'est l'importance de la scolarité pour ces populations, bien que ça arrive après le besoin de logement, la nécessité de se nourrir et l'accès aux soins. Mais la question de la domiciliation reste primordiale dans l'accès à la scolarité, ainsi que l'accueil et la responsabilisation des écoles, des mairies et de l'éducation nationale dans l'accueil de ces enfants. Faire valoir à chaque fois aussi les droits des enfants, les droits à la scolarité, droit à avoir des prérequis, à savoir lire et compter. Est-ce que ce sont les droits internationaux des enfants qui priment, le droit européen, le droit français? Tout ça est remis en question à chaque inscription. Il a été question aussi de créer des possibles, besoin de lever les freins à cette scolarité dans les deux sens, et pour l'éducation nationale et pour ces populations-là. Pour l'éducation nationale, le travail du CASNAV sur la création de mallettes spécifiques, sur des outils pour les équipes enseignantes, mais aussi à développer des postes spécifiques au sein des écoles. On en est à se poser la question du choix des écoles aussi. Est-ce qu'on choisit l'école la plus accueillante pour les enfants roms, ou est-ce qu'on choisit celle le plus en proximité, à savoir si elle est en capacité d'accueillir aussi? Il y a toute la question qui tourne autour de l'accompagnement des familles aussi. Comment les aider à accompagner leurs enfants vers cette scolarité? La pérennité des squats aussi, et les différentes et leur dispersion sur Marseille pose la question de comment les accompagner vers l'école. Ce qui est soulevé, c'est qu'il n'existe rien sur Marseille en termes d'accompagnement. Des solutions scolaires vont être en étude, entre autres sur la Madrag, car il y a d'importantes familles, entre autres de la Porte d'Aix, qui se sont installées là-bas. Quel est à ce moment-là le rôle aussi de la protection de l'enfance dans l'accompagnement de ces enfants vers leur scolarité? Sur le plateau de l'Arbois, donc il y a les ateliers spécifiques qui ont été mis en place, qui permettent de travailler sur les prérequis, en tout cas pour faciliter la scolarisation des enfants. Il y en a besoin pour toutes ces populations. Quel est le lien, l'importance du lien qu'on peut faire aussi sur entre l'avant et l'après, le temps de la classe? C'est-à-dire comment on prépare les enfants à aller en classe et comment on les accompagne à la sortie de la classe pour les devoirs avec les familles. L'important, je l'ai dit, de développer les postes spécifiques dans les classes d'initiation, ce qu'on appelle les CLIN, les dispositifs d'accueil et d'intégration aussi au sein de l'éducation nationale. On en est arrivé à dire que, avec toutes les bonnes volontés associatives qu'il peut y avoir, la volonté institutionnelle reste prépondérante dans l'accueil de ces enfants, à une réelle scolarisation, avec de réels moyens pour y entrer, avec l'importance de concertation entre les écoles, les acteurs de terrain et les institutions, à réfléchir comment faire ensemble sans se substituer les uns aux autres.